À voix nue, Caroline Brouet.
François Molins. J'ai été au service de la justice de mon pays pendant 46 ans.
Quatrième épisode, la voix des attentats. Bonjour François Molins.
Bonjour.
Alors après avoir évoqué votre enfance à Banyuls et votre éducation chez les jésuites, les premiers postes aux quatre coins de la France et plus, puisque c'était aussi en Corse, jusqu'à celui important de procureur au parquet de Bobigny, aujourd'hui je vous propose de parler de votre poste de procureur de Paris, un poste que vous avez occupé de 2011 à 2018. La journaliste Pascale Robert-Diard, dans Le Monde en 2015, a écrit « Il y avait le 20h de Poivre d'Arvor, il y a désormais le 18h30 de François Molins ». Il faut dire qu'au cours de cette période, vous avez tenu quelques 55 conférences de presse, notamment après les attaques terroristes, à tel point que vous êtes devenue la figure récurrente de la lutte contre le terrorisme. En 2020, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, avec ses allocutions télévisées quotidiennes, a même été qualifié de François Molins de 2020. Est-ce que vous avez conscience, François Molins, d'être entré dans la vie des Français pendant plusieurs années, même si c'était de façon plutôt triste, à vrai dire?
Oui, tout à fait. Enfin, je n'en ai pas pris conscience tout de suite, mais c'est vrai qu'après quelques semaines, je me suis rendu compte effectivement de l'impact de ces communications. Et j'avais à l'époque un ministre, Michel Mercier, qui m'avait dit un jour, « François, vous êtes entré dans la vie des Français ». Et je continue à le voir aujourd'hui, hein, puisque 9 ans après, je vois qu'il y a toujours globalement la même perception. Et je pense que les gens étaient tellement marqués à l'époque par ce qu'ils avaient vécu et le climat anxiogène qui entourait la commission de ces attentats, effectivement, que la communication qu'on avait pu faire à l'époque, hein, qui essayait d'être factuelle, claire, neutre, objective, ben, elle avait, j'allais dire, atteint son but et les gens s'étaient accrochés à ces éléments. Et je pense que ça a même pu peut-être aider certains, d'après ce qu'ils me disent aujourd'hui, à traverser cette époque. Mais je ne l'ai pas perçu immédiatement, hein, très honnêtement.
La même journaliste que j'évoquais, Pascale Robert-Diard, dans son article, continue en disant « Les guerres révèlent des généraux, les attentats ont fait surgir François Molins », comme si vous étiez vraiment l'homme des circonstances. C'est à Bobigny, hein, que, en particulier après la mort de Ziad Ebouna, qu'on a évoqué dans une émission précédente, que vous avez posé les jalons de cette façon de communiquer, même de ce mode de communication.
Je pense que ça s'est fait progressivement. Ça a commencé à Bobigny parce que j'ai fait quelques points de presse où bon, ils sont ce qu'ils sont. J'ai jamais eu de formation en matière de communication. Hein. Je crois que j'ai fait en tout et pour tout un après-midi de média training au début des années 2000 à la direction des services judiciaires au ministère. Mais en dehors de ça, j'ai appris, j'allais dire, en communiquant. J'ai appris à communiquer en communiquant sur le tas. Et je pense que ben, comme tous ceux qui font ça, on finit par s'améliorer, par se bonifier. C'est surtout à Paris, hein, où j'ai commencé à faire pas mal de points de presse, pas exclusivement en matière terroriste, parce que j'en ai fait en matière de droit commun, j'en ai fait dans les affaires de criminalité organisée. Et c'est ça, je pense, qui m'a fait progresser. Ce qui m'a beaucoup fait progresser, c'est l'affaire Mera. Parce que je me suis retrouvé à Toulouse, avec quelques, je pourrais qualifier ça d'erreur stratégique. J'étais parti tout seul à Toulouse, pensant remonter le soir. J'avais laissé ma chargée de communication à Paris, qui n'était pas avec moi. Alors qu'en principe, c'était son travail de m'aider à préparer les éléments de langage, hein, et à déterminer ce qu'il fallait dire et comment. Donc je me suis retrouvé tout seul à Toulouse, et j'ai dû faire 2 points de presse, dans des conditions, on va dire, un peu aventureuse, puisque j'ai retrouvé dernièrement mes textes, hein. C'est des brouillons que j'ai même du mal à relire, et c'est ça que j'ai lu donc devant les 300 journalistes qui étaient devant moi lors des 2 points de presse dans la caserne parachutiste, à côté du lieu de l'attentat. Donc ça m'a fait réfléchir, et je pense que j'ai beaucoup progressé par rapport à ça, parce que ça m'a montré effectivement ce qu'il fallait éviter de refaire et quelle était la bonne façon de travailler. Et à partir de là, ma chargée de communication ou mon chargé de communication m'ont toujours suivi au plus près. Ils ont toujours été à côté de moi sur toutes ces circonstances. Ça a beaucoup facilité les choses. Et puis, j'ai effectivement gagné en tirant les leçons de cette première expérience. Je pense que j'ai progressivement gagné en professionnalisme. Et c'est comme toujours, hein, plus on en fait, plus on s'améliore.
Mais deux questions, François Molins, par rapport à ces communications, ces conférences de presse. Est-ce que déjà, ça fait partie de vos missions de procureur? C'est une obligation?
C'est même un monopole que la loi nous donne, parce que vous avez dans la procédure pénale une règle et un principe qui est celui du secret. Hein, c'est l'article 11 du code de procédure pénale qui vous dit que la procédure est secrète. Et la seule autorité qui a le droit que lui donne la loi de rendre public certains éléments de la procédure, c'est le procureur. C'est pas les politiques, c'est pas les policiers, c'est pas les gendarmes, c'est pas les syndicalistes, c'est le procureur et lui seul. Donc il a un monopole en réalité. Donc moi je pense qu'aujourd'hui la communication, elle fait véritablement partie du cœur de métier du procureur, et que c'est une à la fois une obligation et une responsabilité qui pèse sur lui, que de rendre public les éléments de la procédure dans des circonstances qui sont graves et qui vont venir effectivement gravement troubler l'ordre public et créer ce genre de climat.
Vous dites rendre public la procédure en cours, les éléments factuel. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même un vademécum?
Non, il n'y a pas vraiment de vademécum, mais par contre, vous avez toute une gamme hein, pour rendre public. Ça peut passer par différentes voies. On pense au point de presse, à la conférence de presse, mais il n'y a pas que ça. Hein. Ça va commencer par des éléments, d'abord savoir si on fait du off, hein, sans indiquer la source. Hein. Si au contraire, on fait une communication officielle en sourçant, par exemple, source judiciaire, source proche de l'enquête, source parquet, tout ça, ça répond à des codes. Hein. On peut avoir aussi des déclarations dans des papiers d'agences de presse. On peut avoir des communiqués écrits. Ça, on en a fait souvent dans les attentats. Hein, des petits communiqués de 3 ou 4 lignes pour faire état d'un événement qui ne justifiait pas un point presse.
Qui sont ensuite repris dans la presse.
Voilà. Et puis enfin, il y a les conférences de presse avec ou sans question pour les dossiers les plus lourds et les plus emblématiques. Donc, on choisit de communiquer dans toute cette gamme de modes de communication.
Il y a quand même un but bien défini, qui a un rapport aux citoyens que nous sommes. Est-ce que l'idée, c'est de les informer? L'idée, c'est de rassurer l'opinion publique dans ces cas précis d'attentats, par exemple? Vous aviez ça aussi en tête?
Alors, au début, on n'avait pas pris conscience de cette dimension rassurée. On l'a vu après très vite. Hein, et c'est vrai qu'avec le recul, moi, je vois dans la communication de l'époque, finalement, deux vertus essentielles. La première, effectivement, c'est d'informer. Alors, je le répète avec une parole qui soit claire, qui soit précise, qui soit objective, qui soit neutre.
Un ton neutre, ça c'est ce qui a fait votre marque de fabrique.
Et contrairement à ce que pourraient faire notamment des politiques, hein, qui sont pas du tout dans ce registre-là. Puis je pense qu'il y a aussi une deuxième vertu dans cette communication, c'est ce que j'appelle gérer les peurs. C'est-à-dire que la clarté, la neutralité et la précision de la parole qu'on va donner peut contribuer effectivement à rassurer et donc à gérer les peurs et à faire retomber, autant que faire se peut, le climat anxiogène dans lequel les gens peuvent se trouver à ce moment-là.
C'est-à-dire que le fait que vous-même, en parlant, maîtrisiez vos émotions, donne l'idée que vous pouvez, enfin, que la situation est sous contrôle.
Et ça donne aussi, ce qu'on dit montre aussi en réalité, effectivement, que la situation est gérée, qu'il y a une enquête en cours conduite par des magistrats et des policiers, qu'elle progresse, qu'il y a des investigations et qu'on fait tout pour identifier et arrêter les gens qui ont commis ces abominations. Ça aussi, ça participe à la gestion des peurs.
Quels sont les écueils à éviter dans ce genre de situation, de communication indispensable?
Il faut pas s'emballer. Il faut vraiment être maître de sa parole. Et en fait, il faut être hyper rigoureux et vérifier en permanence la véracité de ce qu'on va dire. Parce que le diable se niche vraiment dans les détails. En fait, c'est jamais parfait. Il y a toujours une petite chose. Mais ça, le public le voit pas.
Mais donc, ça veut dire que c'est un travail collectif. Vous avez
une équipe qui travaille sur les éléments factuels. Oui, bien sûr, c'est un travail collectif. Moi, c'est moi qu'on voit à la télévision dans ces cas-là. Mais en réalité, c'est un travail d'équipe. Hein. Ces points presse, ils étaient écrits essentiellement par le chargé de communication. Et puis, chacun y apportait sa touche. Moi, en général, je m'occupais de l'introduction et de la conclusion, hein, où j'y mettais ma patte. Et puis, tout ça était passé au crible des remarques et des critiques d'une petite équipe de 5 ou 6 personnes, jusqu'à ce qu'on arrive à avoir un produit fini, en réalité très, très, tard, juste avant le point presse, souvent les éléments de langage étaient calés définitivement 5 ou 10 minutes avant que j'aille les prononcer. Hein.
Et vous y alliez dans un état second, vous maîtrisiez réellement votre émotion? Vous étiez stressé, vous aviez le trac?
On maîtrise, mais en fait, il y a toujours du trac, il y a toujours du stress. Et puis, sur les attentats majeurs, hein, comme les conférences de presse après Charlie Hebdo, après l'assaut de l'Hypercacher et de Dammartin, après Vendredi 13, les premiers, on est vraiment dans un état de sidération, en réalité. Hein. Donc ça, c'est certain. Après, dans ce genre d'exercice... Moi, je me souviens, hein, au début de ces points, chaque fois j'avais la gorge nouée. Et puis après, bon, le professionnalisme reprend le dessus et on...
Ça veut pas dire qu'on s'y habitue, ça veut juste dire qu'on maîtrise, qu'on domine, disons, un peu plus. Parce que ce qui est important aussi, François Molins, de dire, c'est que à côté de la communication, il y a l'action. Ouais. C'est que dans toutes ces affaires d'attentats, et de fait, entre 2012 et 2018, entre 2012 et 2016, disons, il y en a eu beaucoup.
Oui.
Malheureusement, mais dans toutes ces affaires, vous allez sur place.
Oui.
Alors, j'ai vraiment une question de néophyte, là encore. Pourquoi est-ce important que le procureur aille voir sur place? Pourquoi?
Peut-être qu'il y a d'autres procureurs qui n'auraient pas fait ce choix-là. Hein. Moi, quand j'ai compris ce qui se passait ce soir-là, hein, je suis à... C'est 9h20 ou 9h25, j'ai un premier appel qui m'explique l'explosion au Stade de France.
Quelques minutes. Là, vous parlez du 13 novembre.
Oui, quelques minutes après, 2015. J'allume ma télévision et je vois les annonces, les bandeaux qui annoncent les fusillades sur les terrasses, donc je comprends ce qui se passe. J'ai deux solutions. Soit je reste chez moi et j'attends que l'information arrive, soit je vais sur place au plus près de ce qui est en train de se passer, et pour moi, c'est ce qui va constituer la meilleure façon de comprendre et d'avoir un maximum d'informations. Bon, comme je suis plutôt sur un mode, on va dire, actif et dynamique, hein, je vais choisir la deuxième solution, et je pense que j'ai bien fait. Ça m'a permis de me rendre compte de tout ce qui se passait, et puis de toute façon, avec les téléphones portables, aujourd'hui, où qu'on soit, on peut être rejoint, donc j'étais au plus près de l'événement, j'ai compris plus vite, et je pense que le fait d'être allé sur les lieux, en réalité, nous a donné au parquet de Paris à l'époque une réactivité qui nous a permis de prendre les bonnes décisions suffisamment tôt. Sinon, on aurait pu perdre beaucoup de temps. Dans ce genre de circonstances, il faut savoir prendre les bonnes décisions et il faut savoir les prendre vite.
Donc garder la tête froide, ce qui n'est pas toujours évident dans ces situations. Vous dites même vous-même que vous êtes entré 3 fois au Bataclan, soir du 13 novembre 2015, dans la nuit. Et vous vous êtes même, vous-même, longtemps demandé pourquoi?
Oui, parce que c'est pas normal de rentrer 3 fois. Donc je me suis demandé effectivement, souvent et longtemps, pourquoi j'étais rentré 3 fois dans la salle. Et je pense qu'en fait, c'est une forme de déni, quoi. J'arrive pas à croire à ce que je vois, ou je refuse de croire ce que je vois. Parce qu'en fait, j'aimerais que ce soit jamais arrivé. Et voilà, c'est tout, c'est...
Hein. C'était pas la première fois, hein, d'ailleurs, que vous assistiez à ce genre de scène, puisque dans la même année, au début de l'année, il y a eu les massacres de Charlie Hebdo.
Ouais.
Là aussi, vous êtes entré dans la salle de rédaction le 7 janvier 2015 et vous vous êtes signé.
Oui, oui.
En voyant ce que vous avez.
Oui, oui.
Image indélébile. Mm-hmm. Que vous regrettez quand même pas d'avoir vu. Ça vous a servi à faire un constat et peut-être même aussi à prendre des grandes décisions, comme vous le dites, et puis à accompagner les gens qui étaient sur place.
Encore une fois, c'est des choses horribles. Il faut accepter de devoir les regarder en face parce que les policiers vont y aller, ils vont voir. Hein, et c'est des choses aussi qu'il faut partager avec eux.
Quel est le rôle, de façon plus générale, du parquet en matière d'antiterrorisme?
Il y a des compétences multiples pour un procureur en matière d'antiterrorisme. Pour prendre les choses par le début, sa première compétence, c'est de qualifier les faits. Est-ce que c'est terroriste ou est-ce que ça l'est pas? Une fois qu'il a qualifié les faits comme des faits terroristes, il faut après qu'il désigne des services d'enquête. En général, il y en a 3. Il y a les services nationaux de PJ, les services régionaux et la Direction générale de la sécurité intérieure. Comme il y en a plusieurs, il va falloir après désigner un coordonnateur. Ce qui va toujours effectivement susciter des petites jalousies, pourquoi eux et pas nous, etc. Il faut après que le procureur y dirige l'enquête, qu'il fasse toutes les requêtes au juge des libertés de la détention pour obtenir les autorisations d'écoute et les perquisitions de nuit, etc. Il faut qu'il sécurise juridiquement la procédure. Il va falloir après qu'il lance l'entraide pénale internationale, hein. Donc, sur vendredi 13, par exemple, dans la nuit qui suit l'attentat, on a 3 demandes d'entraide qui vont être adressées aux Belges en quelques heures, entre 2h et 8h du matin. Donc, coopération pénale internationale. Après ça, il faut organiser et coordonner les scènes de crime en s'assurant que des magistrats du parquet vont y aller, avec la police technique et scientifique. Il faut ensuite prendre toutes les décisions en matière de médecine légale, qui on va choisir comme expert, quel institut de médecine légale, qui on autopsie, qui on autopsie pas. On est dans les dispositifs d'aide aux victimes, il va falloir travailler avec l'État là-dessus. Et il faut aussi qu'on signale très vite au Fonds de garantie des victimes du terrorisme les noms de toutes les victimes, parce que le Fonds de garantie doit leur faire une offre provisionnelle dans le mois qui suit l'attentat. Et enfin, il faut organiser la communication. Donc, vous voyez, c'est énorme.
Oui, la communication, elle arrive vraiment à la fin, même si on la voit au début. Oui. C'est ça.
Mais bon, ça vient après quand même, la communication après le fond. Et tout ça, donc, est fait dans des circonstances telles qu'en réalité, face à ce type de circonstances, comme ce sont des enjeux hors normes, ben, on s'en sort en réalité en activant un dispositif, une organisation spécifique, qui est la cellule de crise, qui fonctionne un peu comme un état-major militaire, hein, une dizaine ou une quinzaine de magistrats de greffiers autour d'une table, hein, avec un chef de salle, et puis des ateliers thématiques, dont un ou deux magistrats ont la charge, un écran avec un appareil qui projette des images, tout est hors minuté. On est capable de reconstituer plusieurs jours après tout ce qui s'est passé à la minute, les événements qu'on a appris, et puis ça progresse comme ça, jour et nuit. On vous porte des repas, il y a des lits de camp pour ceux qui veulent se reposer, ça fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et on a utilisé pour cette cellule de crise, dans chacun de ces attentats, une trentaine de magistrats, une douzaine de greffiers.
Dans ce registre-là, François Molin, la pire nuit dont vous vous souvenez, c'est celle de la course-poursuite contre Amédi Coulibaly,
oui.
Le terroriste qui avait tué une policière municipale à Montrouge le 8 janvier 2015.
La nuit du jeudi au vendredi, oui.
Pourquoi ça a été la pire nuit, ça?
Parce qu'on est arrivé, après l'attentat de l'assassinat de la policière municipale à Montrouge, on est arrivé à l'identifier et à avoir la preuve scientifique de l'identification, parce que, de mémoire, on trouve de l'ADN à travers un cheveu retrouvé à l'intérieur de la cagoule, qui a été laissé donc par l'auteur du tir. Donc on sait que c'est Amédi Coulibaly, et on a pu localiser ses possibles points de chute. Il y a son domicile, il y a celui de Hayat Poumbédiène, il y a celui de ses parents. Et on va enchaîner, donc, dans la nuit, les unes à la suite des autres, des perquisitions pour rentrer chez lui et essayer de le découvrir. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là parce qu'en réalité, il est allé se mettre au vert dans l'appartement conspiratif de Gentilly. Toute la nuit, il a été grené finalement par l'espoir de le retrouver et en fait, il va passer entre les mailles du filet.
En fait, vous dirigez l'enquête en tant que procureur, mais vous ne la menez pas.
C'est-à-dire que le magistrat, le
juge et les policiers. Vous n'avez jamais eu de contact avec les terroristes?
Non, moi, je n'avais pas de contact avec les terroristes parce que ceux qui ont des contacts, c'est les parquetiers qui vont prolonger les gardes à vue ou les juges d'instruction lorsqu'ils interrogent les gens pour les mettre en examen. En réalité, les seuls terroristes que j'ai vus, ils étaient morts. Hein. C'était après les scènes d'assaut lorsqu'ils avaient été neutralisés par les services de police.
Et est-ce que, par exemple, vous avez des contacts avec les juges d'instruction? Je pense, par exemple, à Marc Trévidic. Il vous parlait de la façon dont il voyait les terroristes, lui, puisqu'il menait des interrogatoires.
Avec tous les juges d'instruction du pôle antiterroriste, et effectivement, ils nous racontaient un peu les profils des gens qu'ils recevaient, à qui ils essayaient de soutirer des déclarations les plus sincères possibles. Et effectivement, on avait beaucoup de contacts avec eux, hein.
Alors, dans cette gestion des attentats, en tout cas en 2015, cette gestion-là vous a valu, enfin, a valu au parquet de Paris d'être distingué par l'Association internationale des procureurs et poursuivants et de recevoir en 2016 à Dublin un prix spécial pour son action dans la conduite de l'enquête et de la lutte antiterroriste. Donc, je suppose que c'est une source de fierté pour vous. Est-ce que, de façon extérieure à ce prix, François Molins, vous pensez que tout a bien fonctionné? C'est-à-dire, est-ce que le parquet a bien agi et réagi? Est-ce que les services différents, justice, police, renseignement, ont été efficaces? Est-ce que vous auriez pu mieux faire encore? Est-ce qu'on peut toujours mieux faire? Mais qu'est-ce qui a manqué dans cette gestion-là, en tous les cas?
Non, bien sûr que tout n'a pas été parfait. Ça aurait été parfait si on avait pu éviter les attentats.
Oui, les déjouer. Hein, ça aurait été mieux les déjouer.
Si on avait pu les déjouer. Bon, ça n'a pas été possible. Hein. C'est pas le fruit de dysfonctionnement individuel. Hein. C'est un constat collectif qui renvoie, je pense, à des failles dans le suivi du renseignement pour l'affaire Kouachi et Coulibaly. Pour Vendredi 13, c'est un petit peu différent parce que les commandos venaient de Belgique, hein, et c'est d'abord les services de renseignement belges qui étaient responsables du suivi de ces commandos, beaucoup plus que les Français. Donc ils n'ont pas su les déceler d'entact. Après, dans la gestion des attentats, moi je pense que le parquet de Paris a eu une action, à mon avis, très intéressante, hein, très professionnelle. On a eu de très bons résultats. Pour autant, tout n'a pas été parfait. Et on s'est évertué chaque fois à essayer d'identifier ce qui n'avait pas bien fonctionné pour essayer de le corriger pour la fois d'après, à travers ce qu'on appelle des rétex, hein, des retours d'expérience. Donc sur Charlie Hebdo, par exemple, et l'hypercacheur, on avait ciblé une insuffisante circulation d'informations des policiers vers le parquet. On l'a corrigé après à travers des saisines de services de police différentes dans le choix du coordonnateur. On avait ciblé le fait que les victimes n'étaient pas suivies suffisamment près par grâce à l'institution de référents victimes au sein de la PJ de Paris. Ça aussi, ça a été corrigé sur Vendredi 13. Et on a eu beau corriger ça sur Vendredi 13, et bien, il y a eu d'autres soucis. Parce qu'en réalité, on a été un petit peu, je sais pas si le mot est peut-être fort, mais quelque part certainement débordé par le nombre de victimes. Et c'est vrai que les premières heures qui ont suivi l'attentat, il y a eu une forme de désorganisation avec plusieurs numéros qui ont été diffusés et des victimes en réalité, des familles de victimes qui ont couru toute la nuit dans Paris à la recherche de leurs proches sans forcément avoir de nouvelles. Et ça, effectivement, c'était pas bien. Il y a eu des erreurs d'identification dans des corps avec des interversions. Ça aussi, c'est un souvenir assez douloureux. Il y a eu des problèmes dans la médecine légale qui nous ont conduit effectivement à discriminer et à ne pas vouloir autopsier tous les corps. Mais ça nous a permis aussi de rendre tous les corps aux familles dans les 7 jours suivant l'attentat. Ça aussi, c'était pas mal. Donc ça aussi, on a essayé de le corriger de nouveau. Et lorsqu'on est arrivé à Nice, honnêtement, les investigations, la prise en charge des victimes et tout, c'était quasiment parfait. Et pourtant, ça l'a pas été, puisqu'on a eu un dysfonctionnement supplémentaire avec effectivement ces prélèvements systématiques de viscères sur les corps des victimes dont on n'avait pas été avisé et qui n'auraient jamais dû intervenir. Donc vous voyez, ça n'a jamais été parfait malgré tous les efforts qu'on a pu faire.
Et là, on enregistre ces émissions, je le rappelle, fin mars 2024. Ouais. De nombreux attentats sont déjoués, hein, assez régulièrement, hein, d'après ce que nous dit le gouvernement. Il y a eu, depuis 2015, 2016, 2018, des attaques meurtrières, bien sûr, et on vit encore sous la menace.
Oui, et on continuera à vivre sous la menace.
Et on continuera sans doute à vivre sous la menace. Jamais. Malgré tout, vous avez aussi fait en sorte que le ministère de la Justice et le Parlement renforcent la politique pénale.
Oui.
Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est la priorité pour vous? Est-ce que vous n'avez pas craint une menace sur nos libertés publiques? Enfin, quelle question vous êtes-vous posée?
C'est une question qui est difficile parce que je pense qu'il est légitime, quand on est face à ce genre de phénomène, de vouloir muscler le dispositif répressif et de se donner des outils toujours meilleurs pour lutter contre la menace. Avec quand même un constat, hein, il faut être conscient, on aura beau avoir les textes les plus efficaces qui soient, on n'évitera jamais des attentats. Donc de bons textes répressifs peuvent permettre de lutter effectivement contre le terrorisme, mais ils sont pas suffisants pour réduire la menace à zéro. Le risque zéro, il n'existe pas là. Donc il faut effectivement arriver à trouver un juste équilibre entre ce qu'on pourrait appeler peut-être la raison d'État et la raison juridique, hein, et trouver un équilibre qui assure à la fois une efficacité dans la répression, mais qui garantisse aussi la protection des libertés. Et je pense aujourd'hui, le plus gros danger dans ces dispositifs, c'est pour ça que il y a des magistrats et qu'il faut leur faire confiance, mais qu'il y a aussi des préfets et qu'il y a des vraies responsabilités là-dessus. Le plus gros risque, c'est de voir des outils qui ont été adoptés dans la loi pour lutter contre le terrorisme être détournés pour lutter contre autre chose.
Vous pensez à quoi ?
Je pense par exemple au périmètre de protection. Vous savez que c'est des périmètres qui ont été institués par une loi d'octobre 2017, lorsqu'on est sorti de l'état d'urgence, et qui permettent aux préfets, pour lutter contre la menace terroriste, d'instituer des périmètres, dans le cadre desquels ils ont des pouvoirs de police accrus, ils peuvent tout contrôler, ils peuvent fouiller, etc. On a vu, au moment de la contestation du projet de loi sur les retraites, que 2 préfets, je pense, de mémoire, avaient utilisé ces dispositions législatives sur le périmètre de protection pour interdire les manifestations et spécifiquement les casserolades. Ben, ça, c'est un exemple de détournement. À tel point d'ailleurs qu'à l'époque, le ministère de l'Intérieur, avec la direction des libertés publiques, était intervenu en envoyant au préfet des Telex en disant « Halte là, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ces dispositions n'ont pas été faites pour ça. » Donc ça, effectivement, c'est un danger. Et c'est effectivement la responsabilité des préfets, et puis je pense surtout des juges et des procureurs, de s'assurer que ces dispositifs sont bien utilisés dans le cadre de ce pourquoi ils ont été choisis.
Il y a aussi justement toute la question de l'organisation de la justice par rapport à ces affaires. Il a été question de la création d'un parquet national spécialisé sur le modèle d'un parquet national financier. Vous étiez plutôt contre François Molins parce que vous preniez plutôt celle d'un parquet général polyvalent.
Alors en fait, moi, c'est un
qui n'a jamais vu le jour.
C'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, j'étais contre moi l'instauration d'un parquet national parce que j'estimais que le parquet de Paris faisait très bien son travail. N'importe quel autre parquet, même spécialisé, je pense, n'aurait pas fait mieux que ce qu'on a fait à l'époque. Et en plus, le parquet de Paris avait une réserve d'effectifs. C'est-à-dire qu'en cas de cellule de crise, on pouvait prendre dans nos effectifs 30 personnes de plus, ce qu'un parquet spécialisé ne peut pas faire. Donc, quand j'ai compris que de toute façon ça allait se faire, j'ai essayé de faire une contre-proposition en disant, ben ok, si on fait un parquet spécialisé, mais à ce moment-là, faut le faire en étant plus ambitieux. Et moi, j'étais partisan, à ce compte-là, du modèle belge, où il y a un parquet fédéral qui est compétent devant les deux degrés de juridiction, donc le tribunal et la cour d'appel, sont les mêmes magistrats du parquet, donc ça permet de réaliser des économies d'effectifs en plus, et avec un champ de compétences beaucoup plus large, qui aurait été compétent en matière terroriste, en matière de cyber, en matière de crimes organisés, et en matière de droit international humanitaire, sur les crimes contre l'humanité, génocide et crimes de guerre. Voilà. Ça n'a pas été fait. Plus les atteintes à la sûreté de l'État. C'est quelque chose, si vous voulez, qui était trop ambitieux, et qui aurait, je pense, bousculé l'orthodoxie de l'organisation judiciaire française. Puis je pense surtout que ce procureur général, moi j'avoue, je l'avais dit à l'époque, ça m'aurait bien plu, hein, c'est certain, ça m'aurait permis de rester plus longtemps sur le terrain. Je pense qu'on aurait créé quelqu'un qui aurait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir. Et je pense que ça a fait peur.
On parle de pouvoir. Une dernière question, François Molins, qui est indispensable, parce que vous avez dirigé des enquêtes sous les mandats de 3 présidents de la République, de 5 premiers ministres, de 6 ministres de l'Intérieur, de 4 gardes des Sceaux. Vous n'avez jamais subi de pression politique?
Non. Et au moment des attentats, je pense que le pouvoir politique en place m'a fait confiance. Et moi, j'ai un excellent souvenir des relations que j'ai eues à l'époque. On m'appelait pas de la présidence de la République, personne ne m'embêtait là-bas. Au niveau du Premier ministre, j'avais des contacts avec la conseillère justice, avec qui ça se passait très bien. Et puis surtout, j'avais des contacts directs avec le ministre de l'Intérieur, avec qui on échangeait en permanence, et qui ne m'a jamais fait la moindre pression, et qui même, j'allais dire, jouait un jeu que je n'ai jamais vu jouer dans notre pays par un ministre de l'Intérieur. Il allait parfois jusqu'à m'envoyer ses éléments de langage, quand il allait faire des points de presse, pour savoir si j'avais des observations à faire.
Vous parlez de Bernard Cazeneuve?
Oui, Bernard Cazeneuve, et il m'est arrivé à une ou deux reprises de lui dire « Non, monsieur le ministre, ça, vous ne pouvez pas le dire, c'est moi qui dois le dire, parce que j'en charge l'enquête et ce n'est pas vous. » Mais il écoutait, et on a eu des relations, j'allais dire, extrêmement constructives et respectueuses, mais le tout, effectivement, dans la compréhension et le respect de l'office de l'autre. On n'était pas dans les croisements de compétences, hein. Chacun avait la sienne et respectait celle de l'autre.
Bon, bah ça, c'est peut-être dû à certaines personnalités, parce que on verra dans l'épisode suivant, le dernier, à quel point les relations entre la justice et la politique sont des relations compliquées. Donc, il n'a pas toujours été cet ordre-là.
Moi, j'ai eu la chance, effectivement. Non, mais je pense qu'on nous a fait confiance et que nous faisons confiance. Je pense que les politiques se rendaient compte qu'on exerçait efficacement nos responsabilités. Donc, et je pourrais dire la même chose avec Madame Taubira. Madame Taubira, je l'ai renseignée personnellement. Elle n'a jamais exercé la moindre pression.
Quand elle était garde des Sceaux. Merci François Molins. À demain. C'était À Voix Nue avec François Molins, réalisation Clémence Grosse, prise de son Fabien Gosset, chargée de programme Daphné Abgral, une série de Caroline Brou est disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.